France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Combien de milliards d'euros supplémentaires? On va connaître ce matin l'ampleur du déficit public, bien plus important que prévu. Avec quelles conséquences sur les prochains budgets? On va faire le point. Nous restons des partenaires et des amis. La Maison-Blanche prend ses distances, mais sans rompre avec Israël après l'adoption à l'ONU d'une résolution appelant au cessez-le-feu à Gaza. Washington se dit déçu par la colère israélienne, vous l'entendrez.
Et qu'en pensent les humanitaires sur place? Le porte-parole de l'UNICEF en Palestine, Jonathan Crix, est notre invité à 6h20.
Dans ce journal aussi, le franc CFA dans le viseur du vainqueur de la présidentielle au Sénégal et l'histoire des stades et de leur place dans nos villes au cœur d'une rétrospective à Paris.
Le ministre de l'économie appelle à garder son sang-froid.
Pour Bruno Le Maire, ce que va annoncer l'INSEE dans une heure et demie n'est pas un drame, même si c'est sérieux, à savoir très probablement un net dérapage du déficit public en 2023, plus fort que prévu, bien au-delà des 5%, ça c'est une certitude, alors que la France s'est engagée à repasser sous les 3% du PIB d'ici 2027. Claire Chaudière, comment en est-on arrivé là ?
Un peu moins de recettes fiscales que prévues, d'impôts sur les sociétés, de cotisations sociales, moins de TVA rentrée dans les caisses, une croissance un peu plus molle que prévue elle aussi. Tout cela semble donc nous conduire inévitablement au-dessus des 5%. Revenir en 3 ans à un déficit à 2,7% du PIB, comme le prévoyait Bercy, ne pourrait donc se faire qu'au prix, première hypothèse, de hausse d'impôts, ce que rejette le gouvernement, deuxième hypothèse d'un fort regain de croissance, ce qui ne semble pas se profiter, ou troisième option au prix de dizaines de milliards d'économies supplémentaires. Mais le curseur sera très difficile à positionner. Il faudrait mathématiquement, selon les experts, envisager jusqu'à 70 milliards de coupes pendant 3 ans si le déficit atteignait effectivement les 5,6%. Un effort colossal et non sans risque. Une politique d'austérité pourrait casser encore un peu plus la croissance, impactant là aussi le déficit, un cercle vicieux, un peu comme si on tapait sur la tête d'un malade pour le soigner, résume un économiste.
Et rendez-vous donc à 7h30 pour ce chiffre actualisé du déficit public. Pour assainir les finances publiques, le gouvernement a notamment dans le viseur les dépenses des collectivités locales, mais aussi les dépenses sociales. Alors que les retraités sont appelés à manifester aujourd'hui par tous leurs syndicats pour réclamer 10% de hausse immédiate des pensions. Les retraites ont déjà augmenté de 5% au début d'année, mais c'est largement insuffisant pour Henri, 72 ans, ancien commerçant dans le Var.
J'ai toujours eu des commerces, ben je touche 930 euros par mois. Voilà, c'est tout. Et je ne m'en sors pas. On serre la ceinture, on se prive de tout, sur les courses surtout. Et Benjamin, on évite la viande, on évite. Comment vous voulez faire ? L'autre fois, on est allé faire avec ma femme un panier. On a fait 150 euros, il n'y avait que du morceau de carton. Il n'y avait rien. Heureusement qu'on n'a pas pris de la viande.
Donc on économise surtout dans votre quotidien, quoi. On ne sort pas.
Et sortir, vous allez manger un morceau au restaurant, et ben, vous gambergez, vous dites eh ben, aujourd'hui, je vais manger au restaurant, et ben, je vais me priver de course.
Donc vous n'y allez pas?
Non, on n'y va plus. Moi, simplement, j'arriverai à 1050 euros, ben, je vivrai déjà, ça nous ferait un peu plus par mois.
Témoignage recueilli par France Bleu Provence. Au congrès de la FNSEA qui s'ouvre aujourd'hui, le gouvernement mais aussi la direction du syndicat agricole sont attendus au tournant par des troupes pas vraiment convaincues par les promesses de l'exécutif. Le patron de l'organisation, Arnaud Rousseau, le reconnaît. Il faudra présenter du concret aux milliers de congressistes. L'exécutif doit pour lui dire quand et comment il compte mettre en œuvre la 60aine d'engagements pris depuis le début de cette crise il y a 2 mois. De cela aussi dépendra l'accueil réservé au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, après-demain.
France Inter, 6h04, sans surprise, les armes ne se sont pas tues à Gaza.
Et des raids israéliens sont signalés ce matin dans le sud de l'enclave palestinienne, malgré l'adoption hier par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une toute première résolution appelant au cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis se sont abstenus, mais ne l'ont pas bloqué. Là aussi, c'est inédit. Et cela provoque depuis la colère d'Israël. Alors, qu'en dit-on à la Maison-Blanche ? France Inter à Washington, Sébastien Paour.
Officiellement, il n'y a pas de coup de froid entre les deux pays, mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, le reconnaît. La réaction israélienne à l'abstention américaine déçoit et étonne la Maison-Blanche. Nous sommes un peu surpris. Il semble que les services du Premier ministre cherchent à créer l'impression d'une divergence, alors que ça n'est pas nécessaire. Et alors que le soutien américain n'a pas varié depuis l'attaque du Hamas. Pas de changement dans notre politique. Nous avons été clairs. dans notre soutien à un cessez-le-feu dans le cadre d'un accord sur les otages. L'équipe Biden prend clairement ses distances avec la politique du gouvernement Netanyahou. Nouvel avertissement sur une offensive à Rafah, mais les liens restent forts. Nous entretenons toujours des relations très étroites avec nos partenaires israéliens et avec le gouvernement en place. Ça ne veut pas dire que nous serons d'accord sur tout, et mon Dieu, nous ne le sommes pas. Mais ça arrive entre amis, vous n'êtes pas d'accord, vous discutez. Israël reste un allié proche et un ami. La meilleure preuve, conclut John Kirby, le ministre israélien de la Défense, est en ce moment dans la capitale américaine pour discuter du soutien militaire à Israël. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Au Sénégal, le vainqueur de la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, assure que les Sénégalais ont fait le choix de la rupture en l'élisant dimanche et il s'adresse à la communauté internationale. Le Sénégal restera l'allié sûr et fiable de tous les pays respectueux. Volonté de rassurer donc ses partenaires étrangers, lui qui veut, je cite, rétablir la souveraineté nationale, renégocier les contrats gaziers et pétroliers conclus avec des entreprises occidentales. Mais aussi, Omar Waman, vous êtes à Dakar, en finir avec le franc CFA.
C'est l'un des derniers héritages de la colonisation, le franc CFA, perçu comme une entrave au développement, mais toujours en circulation au Sénégal, 64 ans après l'indépendance. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, se dit déterminé à mener une réforme monétaire.
L'Afrique, c'est 54 pays. Il n'y a que 14 pays qui n'ont pas leur propre monnaie. Les 40 autres ont leur monnaie. Vouloir intégrer le cercle de la majorité des pays africains qui ont leur propre monnaie. En quoi ça doit être un drame? Pourquoi devons-nous renoncer à un levier de financement aussi important quand on aspire au développement? Nous sommes très pauvres, très endettés, très en retard sur le monde. Et on nous dit voilà un levier que vous devez pouvoir activer pour aller plus vite vers le développement endogène. On vous dit non, non, non. Catastrophe, n'en parlez pas. Cette souveraineté-là, comme les autres souverainetés, nous ne comptons pas y renoncer. Au contraire, on va davantage l'affirmer parce qu'un pays souverain doit être totalement souverain, mais pas à moitié.
Dans un premier temps, le président sénégalais va tenter de convaincre ses homologues d'Afrique de l'Ouest d'abandonner également le franc CFA au profit d'une monnaie commune qui faciliterait les échanges. Si les conditions n'étaient pas réunies, il mettrait tout en œuvre pour doter le Sénégal de sa propre monnaie.
Omar Waman à Dakar, une créature malade et cynique. Voilà comment le président ukrainien Zelensky décrit Vladimir Poutine après la nouvelle allocution de son homologue russe à la télé hier soir, trois jours après l'attentat près de Moscou, revendiqué par le groupe État islamique. Poutine a pour la première fois reconnu qu'il avait été commis par des islamistes radicaux, tout en sous-entendant de nouveau un lien avec l'Ukraine. Beaucoup de questions se posent, dit le président russe, pointant, je cite, le régime néo-nazi de Kiev. Et après ces attaques terroriste en Russie, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévient « La menace ici en France est très élevée. L'attention des services de renseignement et de la population doit être réveillée. » Contre l'orpaillage illégal qui fait des ravages en Guyane, Emmanuel Macron se dit lui favorable à la création de nouvelles filières légales d'exploitation de l'or sans recours au mercure. Exemplaire en la matière, dit-il, pour chasser les orpailleurs clandestins. Le chef de l'État poursuit aujourd'hui son déplacement dans le département français par une visite de Kourou, où il doit faire des annonces sur l'avenir du centre spatial.
À moins de 3 mois de l'euro, les Bleus veulent se rassurer au plus vite.
Après la claque infligée par l'Allemagne il y a 3 jours, l'équipe de France de foot affronte ce soir le Chili en match amical. Rendez-vous au Vélodrome de Marseille à partir de 21h. Le Vélodrome indissociable donc de Marseille, comme le Parc des Princes l'est de Paris ou Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Les stades dans la ville, au cœur d'une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. L'histoire de ces enceintes de l'entre-deux-guerres à nos jours, leur avenir aussi peut-être un peu moins monumental. Petit avant-goût avec vous, Fanny Imbert.
Émilie Reynaud, commissaire de l'exposition, déambule entre les dessins du stade de Saint-Étienne imaginé par Le Corbusier et les maquettes du Parc des Princes sur le périphérique parisien. Pour elle, le stade est devenu avec les années un objet architectural majeur qui transforme la ville.
Le stade aujourd'hui, quand on l'envisage non pas comme l'équipement public pratiqué par tous, mais comme le temple dédié au sport, je pense qu'on peut l'imaginer comme une représentation nationale. C'est vraiment des monuments pour la ville.
L'exposition explore notre rapport à ces colosses d'acier, mais propose aussi des solutions pour inventer une architecture moins invasive et plus inclusive. Martin Lichtig, jeune architecte, présente sa maquette. Il a inventé un véhicule pour transporter du sport partout dans la ville.
L'idée, c'est de déployer le véhicule pour obtenir cette plateforme de 25 mètres carrés qui permet comme ça la pratique du breakdance ou en déployant un ring, la pratique de la boxe telle qu'elle est pratiquée pendant les Jeux Olympiques.
Lauréat du concours organisé par la Cité de l'Architecture, il verra son invention prendre vie au pied des tours de Saint-Denis. Pour Fiona Medos, responsable du concours, l'architecture doit se faire à toutes les échelles.
À la place de faire déplacer les gens, cet objet-là va aller au pied des grands ensembles. Il n'y a pas de moralisation à faire du sport, c'est plutôt convivial et de voisinage.
Le projet animera les rues de Saint-Denis tout l'été pour que le sport, au-delà du symbole, reste accessible à tous.
Il était une fois les stades, c'est à voir à la Cité de l'Architecture à Paris jusqu'au 16 septembre.
C'était le journal d'Alexis Morel. Du foot encore dans l'esprit sport. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Alors que le Brésil et l'Espagne disputent ce soir un match amical, le joueur brésilien Vinicius en a profité pour dénoncer le racisme dans les stades espagnols. Et justement, ce match est organisé pour lutter contre ce fléau.
Oui, et même s'il sera sur la pelouse du stade de Santiago Bernabéu de Madrid pour une fois en tant qu'adversaire, hein, puisque Vinicius joue au Real Madrid, eh bien, il va évoluer dans l'un des seuls endroits où il se sent à peu près à l'aise, à l'abri des insultes racistes dont il fait l'objet en Liga espagnole depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. Vinicius, qui a été pris pour cible à Mallorca, à Valladolid, à Barcelone, à Valence, traité de singe par certains supporters, et c'est un sujet douloureux que le joueur de 23 ans a donc longuement abordé hier en conférence de presse.
Je veux que dans un avenir très proche, il y ait moins de cas de racisme et que les Noirs puissent avoir une vie normale comme tout le monde. C'est pour cela que je veux continuer à me battre. Je veux juste jouer au football et faire tout ce que je peux pour mon club et ma famille.
On sent beaucoup d'émotion dans sa voix.
Oui, il a terminé son intervention, les larmes aux yeux. Il a aussi déclaré « Je me sens de plus en plus triste, j'ai de moins en moins envie de jouer, personne ne me soutient ».
Et c'est vrai que personne ne le soutient ?
Non, c'est faux, hein, parce que certaines personnalités du monde du foot ont annoncé être aux côtés du joueur brésilien. Alors il y a des soutiens, oui, des actions, beaucoup moins. Alors il y a parfois eu des matchs arrêtés, mais qui sont quand même allés à leur terme. Il y a eu aussi des plaintes déposées par le Real Madrid auprès de la justice espagnole, mais ce n'est pas non plus la révolution. Vinicius milite pour des mesures plus radicales. Il appelle les instances qui bougent trop lentement à son goût à frapper plus fort. Il souhaite notamment des sanctions pour ceux qui l'insultent pendant les matchs. L'absence de punition, c'est ce qui me frustre le plus, dit-il, plus que toutes ces personnes qui continuent et qui s'en aillent, qui s'en vont ensuite du stade sans qu'il ne se passe rien ensuite. Voilà, message pour une nouvelle fois les instances du football espagnol.
Le combat de Vinicius contre le racisme dans les stades, c'était l'esprit sport de Cédric Guillou.